Mais les saints dont nous allons parler, c'est un saint très peu connu, mais je tiens à vous en parler quand même, c'est Saint Silvère, un pape, et aussi le bienheureux Thomas Whitbread, un anglais, et ses compagnons jésuites, cinq jésuites. Je vous expliquerai dans quelles circonstances ils sont morts en Angleterre en 1679. Et nous allons parler aussi de Saint Raoul, un évêque. Vous savez que Raoul, c'est le même nom que Rodolphe. Alors, si vous connaissez des Rodolphes, c'est leur patron, ça, Saint Raoul. Et enfin, nous parlerons probablement de Saint Raymond de Barbastro. C'est un saint très, très particulier qui va probablement vous intéresser. Alors, nous commençons donc. Non, pas en Angleterre, nous y reviendrons tout à l'heure avec le bienheureux Thomas Whitbread. Nous allons parler tout d'abord d'un pape, Saint Silvère, malheureusement peu connu, il n'a régné qu'un an et demi, mais je tiens à en parler brièvement, je ne voudrais pas m'étendre sur toutes les difficultés dans lesquelles il a été plongé. C'est un pape qui est mort martyr en 537. C'est assez curieux que la personne qui l'ait fait tuer, martyr, c'est une femme. C'est une impératrice, la fameuse impératrice Théodora. Voici l'histoire en quelques mots. Il a été pape, lui, comme je vous ai dit, un an et demi, c'est tout, de juin 536 au 11 novembre 537. En 536, c'est un pape qui est mort martyr en 537. C'est assez curieux que la personne qui l'ait fait tuer, martyr, c'est une femme. C'est une impératrice, la fameuse impératrice Théodora. Voici l'histoire en quelques mots. Il a été pape, lui, comme je vous ai dit, un an et demi, c'est tout, de juin 536 au 11 novembre 537. En 536, son prédécesseur, le pape Agapite Ier, avait reçu du roi, le roi des Ostrogoths qui avait envahi l'Italie. Ils occupaient une bonne partie de l'Italie. Il avait reçu... ce pape Agapite, la mission de se rendre à Constantinople, l'autre poumon de l'Église. Hein, vous savez que, en somme, même aujourd'hui, l'Église a deux grands poumons. L'Église latine, qu'on appelle l'Église catholique ou l'Église catholique romaine, et l'autre grand poumon, c'est celui qui... respire en Orient, ce qu'on appelle l'Orient, l'Europe orientale, à Constantinople, aujourd'hui la ville d'Istanbul, en plein pays musulman, en Turquie, parce que les musulmans ont envahi ce grand pays chrétien qu'est la Turquie, qui était la Turquie, et à Constantinople réside toujours le patriarche des orthodoxes, qui sont les frères des catholiques, pour ainsi dire presque les frères siamois, hein. Malheureusement séparés depuis le XIe siècle, avec une brève réunion au XVe siècle. Nous espérons toujours cette réunion profonde de nos deux églises. De toute façon, l'Agapite s'est rendu à Constantinople pour essayer de régler des problèmes avec un empereur qui régnait là-bas, Justinien. Et ça n'a pas été facile. Hein? Et le pape est mort à Constantinople. Le 22 avril de l'an 536, et son successeur, bien, c'est notre saint du jour, Saint Silvère. Il faut dire que Agapite avait remporté une victoire théologique sur le patriarche de Constantinople, et qui s'appelait Antime. C'était un protégé de cette impératrice Théodora dont je vous ai dit un mot, et qui va vouer à la mort... le successeur d'Agapite, Saint Silvère, dont on célèbre la fête aujourd'hui. Le pape était vraiment dans une situation extrêmement difficile quand il a été nommé, ce pape Saint Silvère. Il était le candidat du roi des Goths. Et savez-vous qui il était? C'est absolument extraordinaire. C'était le fils, oui, le fils du pape Hormidas, qui était mort en 523. Imaginez, le pape Silvère était fils d'un pape. Ça, c'est de l'eau au moulin pour ceux qui veulent que tous les prêtres, les évêques et même les papes se marient. Mais évidemment que cette possibilité, autrefois, c'était permis, ça entraînait bien des problèmes. Il faut vous dire que un pape qui a un fils, comme disons César Borgia, qui est un assassin, un adultère, un monstre abominable dans le genre de certains monstres qu'on juge à Toronto, c'est plutôt pénible pour la papauté, c'est plutôt pénible pour l'Église. Il en va de même pour les évêques. Je me souviens de cet évêque épiscopalien américain qui était extrêmement découragé de la conduite de deux de ses fils. L'un s'est suicidé à 21 ans. L'autre était dans un état difficile, très, très difficile. Alors ça le préoccupait énormément et il disait souvent en privé à des évêques catholiques combien le poids était pénible, de gérer un diocèse, d'avoir des responsabilités immenses sur le plan spirituel et d'avoir des enfants qui sont tellement éloignés de l'Évangile, du moins pendant un certain temps, même si ce sont pas de mauvais fils dans un certain sens. Donc, Silvère était le fils du pape Hormisdas. Je vous ai dit que Hormisdas était mort en 523, donc 13 ans plus tôt. Et c'était un sous-diacre de la curie. Ça surprend, un sous-diacre. C'est en dessous d'un diacre, comme vous savez. Et oui, et alors on élisait dans ce temps-là des diacres et des prêtres. Et donc, d'après les livres qui nous racontent ces histoires-là et qui datent de cette époque, eh bien, le clergé romain a fait une opposition à ce nouveau pape Silvère. Et finalement, ben, ce pape est passé quand même puisqu'il était favori des Goths qui occupaient Rome. Les Goths, c'est comme les Visigoths, les Ostrogoths, n'est-ce pas? Ce sont des barbares, disait-on, des gens qui descendaient du nord, des régions allemandes, et qui avaient envahi l'Italie. Et alors, pour faire une histoire plutôt courte, je voudrais vous résumer ça. Eh bien, l'impératrice Théodora voulait que Rome encourage le monophysisme. Le monophysisme, c'est-à-dire une théorie théologique qui est contraire à la foi catholique, théorie qui finalement ne permet pas de croire que l'Esprit Saint est Dieu et qu'il y a trois personnes en Dieu. Et c'est ainsi que Théodora s'est opposée à Silvère et qu'elle l'a fait l'expédier en Asie, à Patard, l'exiler. L'évêque de Patard s'est opposé à Théodora, cette impératrice, et qui était hérétique, finalement. Et puis, il y a un petit récit du procès qui est assez intéressant, qui nous est resté, des vieux, vieux textes. Je vous le lis, c'est dans le Liber Pontificalis. C'est un dialogue entre l'impératrice Théodora et le pape Saint-Silvère. L'impératrice lui déclare « Je vous ordonne de rétablir sur son siège, archiépiscopal, Antime, notre patriarche. » Antime était monophysite. Et le pape Silvère lui répond, « Voilà sans doute un litige qui me vaudra l'exil et la mort. En effet, auguste impératrice, je ne puis obtempérer. Jamais je ne rétablirai un hérétique opiniâtre de la secte des Utichéens, lesquels proclament faussement qu'en Jésus ne subsiste que la seule nature divine sous l'apparence humaine. C'est avec raison que le pape Agapit, mon illustre prédécesseur, a juridiquement condamné cet homme. J'entérine la sanction de mon prédécesseur. » Et l'impératrice, sans doute très bien élevée et très polie, d'après le texte, parce que c'est très, très bien rédigé, elle lui dit, « En ces conditions, cher Bélisaire, » Bélisaire, c'était l'homme qui rendait la justice au nom de l'impératrice. Alors, elle dit, « En ces conditions, cher Bélisaire, chef de nos armées, arrêtez le pontife et conduisez-le en exil. On se croirait dans une pièce de Racine. Ces vieux textes sont très solennels. Je me demande si les gens vraiment se parlaient sur ce ton, mais c'est fort possible, et pourquoi pas, hein? Je vous ai dit que l'évêque de Patard, où Saint-Sylvestre a été exilé, avait protesté, très courageusement, parce qu'il risquait sa vie. Il avait dit à Patard, « Nous avons beaucoup de rois, mais pas un comme le pape Sylvestre, qui est préposé au gouvernement de l'Église universelle. Son expulsion est une honte. » Et l'évêque d'Autun en France, je me souviens d'être allé à Autun en 1950, j'avais rencontré là un homme formidable, chanoine Griveaux. Chanoine Griveaux qui s'occupait de la cathédrale et particulièrement qui s'occupait beaucoup d'art roman. Moi, ça l'art roman m'intéressait énormément. J'ai visité presque tout ce qu'il y avait d'art roman pendant 49 et 50 en France, dans d'autres pays aussi, et en Espagne, en Catalogne, etc. Mais le chanoine Griveaux m'avait très bien reçu. Et puis, il manquait la tête du Christ au tympan de sa cathédrale. Le tympan, je vous le rappelle, c'est cette immense sculpture en forme de demi-lune qui est au-dessus du porche d'entrée et qui représente habituellement le Christ qui trône sur le monde et sur l'univers, où il y a toutes les âmes de la terre, les âmes du purgatoire et les âmes de l'enfer, et c'est lui qui trône et qui est le juge. Et ce sont souvent des sculptures un peu terrifiantes, mais souvent très, très, très belles. Et le Christ d'Autun était magnifique. La tête lui avait été arrachée au temps de la Révolution, et on venait de la retrouver, chose absolument fantastique, à l'autre bout du monde. C'était phénoménal d'avoir retrouvé la tête de ce Christ. Et là, l'évêque d'Autun, au temps de Sylvestre, donc au VIe siècle, il lui écrit « Carissime Pater », ça veut dire « Père très cher ». C'est ainsi qu'il s'adresse au pape Saint-Sylvestre. « Des voyageurs qui reviennent d'Italie nous apprennent votre injuste éviction du siège de Pierre par un ordre d'exil. C'est pour nous une douleur extrême. Que va-t-il nous arriver à nous-mêmes ?» alors que l'on traite de la sorte le souverain pasteur. Toutefois, ne perdez pas courage. Au sein de cette terrible tempête, le bras divin est assez puissant pour rétablir le calme. Un peu comme le bras de Jésus sur la mer, lorsque la mer s'épouvante, hein, puis il calme la mer sous les yeux de ses apôtres. Hein. Dieu cherche la paix. Hein. Et l'évêque d'Autun termine en disant « Priez pour nous, bienheureux pape ». Vous voyez que déjà au VIe siècle, et bien avant d'ailleurs, j'ai des récits, je vous en parlerai d'autres fois, où l'on voit que le pape de Rome est vraiment le pape de l'Église universelle, y compris de cette grande Église orthodoxe qui était unie à nous. Nous étions unis à eux. Nous étions qu'une seule Église. Des frères ensemble, célébrant la messe différemment, d'accord ? Mais nous savions nous aimer, et nous savions écouter la voix du pape ensemble, et entendre par lui la voix de Pierre, le premier pape, et la voix du Christ, en somme. L'unité ne se fait pas uniquement par les cœurs. Nous avons besoin, les êtres humains, les chrétiens même, nous avons besoin d'un homme, je crois, pour nous unir, au nom de Jésus-Christ. Autrement, l'union est très difficile. Je crois qu'elle est, à mes yeux du moins, peut-être que je me trompe, à mon sens, elle est impossible, mais elle se prépare. Et actuellement, je trouve très beau la grande unité qui se forme chez les chrétiens. Et on voit aux nouvelles aujourd'hui à Radio Ville-Marie qu'un grand représentant de nos frères luthériens est à Rome actuellement auprès du pape et est sorti d'une réunion avec le pape très encouragé sur la possibilité d'une union, non seulement de cœur, mais une union profonde, une union dans la foi, sur les bases profondes de la foi. J'entendais hier à la radio des gens qui protestaient contre l'Église catholique en disant que l'Église catholique avait ajouté toutes sortes de choses, dont le chapelet. Mais le chapelet, avec tout le respect que je dois au chapelet, ne fait pas partie de la foi catholique en tant que telle, hein? On n'est pas obligé de croire au chapelet, pas plus qu'on est obligé de croire à Lourdes. Je crois à Lourdes, j'y suis allé à Lourdes, j'y suis retourné, j'aime Lourdes, j'aime la Sainte Vierge. Mais il ne faut pas faire de notre foi catholique une foi qui s'éteint à toutes sortes de choses qui ne sont pas des dogmes de foi. Les dogmes sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Et c'est ce... Mais le chapelet, avec tout le respect que je dois au chapelet, ne fait pas partie de la foi catholique en tant que telle. Hein? On n'est pas obligé de croire au chapelet, pas plus qu'on est obligé de croire à Lourdes. Je crois à Lourdes, j'y suis allé à Lourdes, j'y suis retourné, j'aime Lourdes, j'aime la Sainte Vierge. Mais il ne faut pas faire de notre foi catholique une foi qui s'éteint à toutes sortes de choses qui ne sont pas des dogmes de foi. Les dogmes sont très peu nombreux, très peu nombreux. Et c'est ce qui compte dans notre affirmation du credo à nous, catholiques. C'est ce qui compte pour nous affirmer comme catholiques, comme chrétiens. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver notre fraternité avec les autres chrétiens qui croient la même chose que nous, même s'ils ont des traditions différentes. Je termine en signalant que dans l'Église catholique, nous avons plus de 20 églises unies sous la juridiction du pape, et que samedi prochain, le chef d'une de ces grandes églises qu'on appelle l'église melkite ou l'église grecque melkite, ce sont des Arabes en général, des Arabes catholiques, chrétiens. Alors le chef, sa béatitude Maximus V, vous allez dire que je me vante, mais je vais me vanter, je l'ai reçu chez moi, je l'aime beaucoup, je l'ai reçu il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années, je le connais bien, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Et donc, sa béatitude Maximus V à Montréal va célébrer samedi prochain une messe dans sa liturgie propre, la liturgie de l'Église orthodoxe, de l'Église orientale. Samedi prochain, à 15h, chez les Sœurs de la Providence, dans leur immense couvent, dans leur très belle chapelle, au 5655 rue de Salaberry, à 15h. Donc, à la suite, vous pouvez, moyennant paiement malheureusement, au buffet Christa, participer à un magnifique repas en sa compagnie. C'est à 17h30. Et si vous voulez obtenir des billets, vous pouvez toujours vous renseigner au 352-0165. 352-0165 auprès de Monseigneur Farès. Chapelle Saint-Georges de Windsor, sous la direction de Christopher Robinson, et à l'orgue, c'était John Porter. C'est un disque intitulé The Glory of St. George, un disque guild. Et maintenant, nous allons passer, justement, avec tout le respect que nous devons à nos frères anglicans, à des martyrs jésuites tués en Angleterre, en grande partie pour des raisons politiques sans doute, mais aussi pour des raisons qu'ils font difficile à comprendre et des raisons religieuses. Il faut bien se situer, nous sommes au 17e siècle à ce moment-là, il y a déjà 300 ans et davantage, et c'est les querelles entre les différentes religions. Il faut comprendre que l'Église catholique, jusqu'au 16e siècle, avait de nombreux monastères en Angleterre. Les monastères possédaient des territoires immenses. Parfois, certains d'entre eux étaient excessivement riches. Ils avaient aussi un pouvoir assez fort. Ils pouvaient s'opposer au roi. Et malheureusement, est surgi en Angleterre ce roi, Henri VIII, qui n'a pas laissé pour les catholiques un excellent souvenir. Henri VIII était un homme qui était très attaché à la foi catholique au début de son règne. Il s'est même mérité en 1523 le titre de « Defensor Fidei », c'est-à-dire « défenseur de la foi ». On peut voir, quand on va à Londres, au British Museum, on peut voir dans une section de ce musée des vitrines qui sont couvertes de tissus. Et quand on pousse le tissu, on peut voir à l'intérieur des vitrines des vieux documents anciens. On ne permet pas à la lumière de les atteindre car ça risque, à la longue, à travers les siècles, d'effacer les signatures ou l'encre sur les parchemins. Et on voit là un document qui vient du pape, qui date de 1523. Et qui nomme Henri VIII défenseur fidei. Pourquoi? Parce que il a été considéré comme défenseur de la foi, et on voit sur les pièces de monnaie, n'est-ce pas, anglaises, le titre de défenseur fidei, défenseur de la foi. Il le porte encore de nos jours, mais défenseur, c'est défenseur de la foi quoi? De la foi catholique? C'est assez curieux. Il y a de ces choses étonnantes dans l'histoire. Et il avait obtenu ce titre parce que il s'était opposé au luthéranisme. Vous savez que c'est en 1517 que Luther a affiché ses 70 réclamations et que, petit à petit, sans vouloir se séparer de l'Église catholique, il s'en est séparé, c'était un moine. Et le luthéranisme s'est répandu parce que les chefs politiques en ont profité pour séparer les gens de leur pays, de Rome, parce que Rome prélevait beaucoup de taxes pour construire la grande basilique Saint-Pierre. Et cet argent s'en allait à Rome, et les chefs, les petits chefs d'État, les ducs, les princes, n'aimaient pas tellement ça. Alors certains se sont déclarés luthériens. Parmi eux, il y avait certainement des hommes sincères qui voulaient réformer l'Église, et la seule façon qu'ils voyaient, c'était de se séparer de cette immense Église catholique. Il faut comprendre les protestants aussi. Hein. Il ne faut pas les pointer du doigt en croyant que c'est des gens qui ont voulu briser l'Église, etc. Ils l'ont brisée, mais c'est pas nécessairement ce qu'ils voulaient. Hein. Et alors, notre Henri VIII avait obtenu, je pense, de Thomas More et aussi de savants, dont je vous parlerai un jour, la rédaction d'un texte pour défendre l'Église catholique, et c'est ainsi qu'il a été déclaré « Defensor Fidei ». Or, en 1679, sous le règne d'un roi qui n'aimait pas les catholiques, eh bien, on a prétendu qu'il y avait un complot papiste. Ça a suscité une persécution extrêmement violente contre les catholiques en Angleterre. Et on s'en est pris naturellement à la Compagnie de Jésus. Et 5 jésuites ont été suppliciés à Tyburn le 20 juin 1679. Ce sera demain, c'est aujourd'hui cette fête. D'abord, le père Thomas Whitebread, qui était provincial pour toute l'Angleterre. Il était de famille aisée, était originaire d'Essex. Il avait fait des études au séminaire de Saint-Omer en France. Ils allaient, les catholiques, à cause de la persécution, faire leurs études en France, pour se cacher. Il est entré chez les Jésuites en 1635. Il a donc été 44 ans jésuite. Il était ordonné prêtre, il était envoyé en Angleterre, il s'est dévoué plus de 30 ans à son ministère apostolique, parce qu'il y avait une espèce de paix là, entre les catholiques et les anglicans. Il a prêché, puis il a publié des tracts pour essayer de ramener à la foi catholique des gens qui l'avaient quitté. Et peu avant la persécution, il a été nommé provincial, et en parlant devant ses frères à Liège, en Belgique, il a pris pour thème mais les paroles de Jésus à deux apôtres qui désiraient des places d'honneur, puis Jésus leur avait demandé « Pouvez-vous boire le calice que je vais boire ?» Et après avoir énuméré les épreuves possibles, eh bien, Thomas Whitebread a répété « Possumus, nous pouvons, nous le pouvons. » Il a été arrêté en Angleterre, il était emprisonné, enchaîné. Et la prière a soutenu des mois son corps affaibli. Le 13 juin 1679, il a été transféré à Old Bailey, pour être jugé. Et maintenant, nous revenons au bienheureux Thomas Whitebread, qui a comparu le 13 juin 1679, c'est-à-dire qu'il a été transféré à Old Bailey pour être jugé. Il y a quatre jésuites qui l'accompagnaient. Imaginez, il y avait un jésuite très âgé, hein, plus de 70 ans. Je ne devrais pas dire ça, je vais avoir 70 ans l'an prochain. Bon, je retiens mes paroles. Et le père William Harcourt, son vrai nom, c'était, paraît-il, Barrow. Vous savez, les gens avaient deux noms souvent dans ce temps-là. Les gens se demandent pourquoi j'ai deux noms, Beaugrand, Champagne. Mais c'est que la plupart des Québécois, on avait deux noms autrefois. Puis on passait de l'un à l'autre, comme ça. Et ça se fait encore aujourd'hui. Il y a encore les Gérin Lajoie, puis on entend souvent aux nouvelles Monique Miville-Deschênes. Les Miville-Deschênes, les gens ont gardé deux noms. La plupart ont eu la simplicité de n'en garder qu'un. Je regrette de ne pas avoir fait ça quand j'étais jeune. En tout cas, pour revenir donc à nos fameux jésuites, mais ce père Harcourt était entré dans la compagnie à 33 ans. Il s'est dépensé en Angleterre pendant 35 ans. Quel courage, hein? Toujours dans le danger. Il était supérieur à Londres quand on l'a arrêté. Et pendant 20 ans, il avait demandé à Dieu de mourir martyr. Cet appétit qu'ont certains chrétiens à travers les temps de mourir martyr, de verser leur sang par amour pour Jésus, à l'exemple de Jésus qui est mort en versant son sang. Il y a là une identification du cœur, une identification profonde de l'âme. Ce n'est pas du masochisme, c'est de l'amour. C'est une tendresse profonde pour Jésus-Christ. Cessons de voir là-dedans du masochisme. C'est du courage. C'est de l'amour. C'est une tendresse profonde. C'est difficile à comprendre pour nous. Moi, je ne souhaite pas mourir martyr encore. Ça me viendra peut-être un jour à force de parler des saints. Mais actuellement, je ne suis pas rendu là. Et alors, un autre jésuite, c'était le père John Fenwick. Ou Caldwell. Voyez-vous, encore deux noms de famille. Âgé de 50 ans. Il était du comté de Durham. Durham. Ça vous dit quelque chose, hein, Lord Durham? Alors donc, il était de ce comté. Il a dû rompre avec ses parents protestants pour obéir à l'appel qu'il ressentait au fond de son cœur de se faire catholique. Il a étudié à Saint-Omer, s'est fait jésuite en 1656, à 38 ans. Et puis en 1675, on l'a envoyé en Angleterre. Et les chaînes de la prison ont envenimé une mauvaise plaie qu'il avait. On songeait d'ailleurs à lui couper la jambe tellement sa jambe était épouvantable quand il était condamné à mort. Le quatrième, c'est le père John Gavin, qui avait aussi comme nom Gowan. Il était de Londres, lui. Il était élevé à Saint-Omer, comme notre Thomas Whitebread. Et puis, ses condisciples l'appelaient l'ange. Imaginez, les gens qui sont fous des anges de nos jours doivent l'envier. Ils se faisaient appeler l'ange. C'est tellement la mode, les anges, aujourd'hui, que ça tourne au ridicule. C'est d'un pénible. Jésuite à 20 ans, ce John Gavin, il a suivi des cours à Liège, en Belgique, et à Rome, évidemment en Italie. Et il travaillait en Angleterre depuis 8 ans. Il avait obtenu plusieurs conversions quand il a été arrêté. Et enfin, le père Anthony Turner, qui était un converti lui aussi, il venait du comté de Leicester, ou si on préfère Leicester, où son père était pasteur. Il avait étudié à Cambridge. Devenu catholique, il a repris ses études au Collège anglais de Rome. Vous savez qu'à Rome, il y a des collèges nationaux, comme il y a le Collège canadien, le Collège irlandais, il y a le Collège anglais. On l'avait déjà dans ce temps-là. Et âgé de 24 ans, il s'est donné à la Compagnie de Jésus. Puis une fois prêtre jésuite, il est venu en Angleterre, où il a résidé surtout à Worcester, ou si vous préférez, Worcester. Ça se prononce Worcester. Et ce furent 18 années de travail, illuminé par l'espoir du martyr, lui aussi. Et dès que la persécution a commencé, il est allé se livrer lui-même à un magistrat en déclarant qu'il était prêtre et jésuite. Il y avait aussi sans doute là-dedans le désir, en affirmant sa foi à l'unité de l'Église, le désir de ramener à la foi qu'il considérait comme la vraie foi, ceux qui, à ses yeux, s'en étaient malheureusement séparés. Mais je rappelle que moi, j'étais en grande admiration devant les Anglicans depuis ma plus tendre enfance. Ma mère m'amenait à la cathédrale anglicane de Montréal, très jeune. J'ai souvent assisté à des messes anglicanes, j'ai souvent prêché même dans des églises anglicanes, et j'ai rencontré tellement de gens merveilleux. Et à Londres, je vous conseille d'aller à l'abbaye de Westminster, assister le dimanche soir à l'Evensong, puis des chants merveilleux du 18e siècle, 17e siècle, anglicans. C'est très beau, ce sont de très beaux offices. Chantez, si vous savez l'anglais, là, c'est merveilleux. On peut faire ça ici à Montréal, à la cathédrale anglicane. J'aime beaucoup prier avec les Anglicans, qui sont nos frères. Mais espérons qu'un jour, nous serons tous unis dans la seule et même Église. Alors, tous ces pères jésuites étaient accusés de vouloir tuer leur roi. Les témoignages, à leur décharge, ont été écartés systématiquement. Et le père Whitebread a mené sa défense avec habileté, et a montré que les principaux accusateurs étaient des hommes sans valeur morale, mais le jury s'est laissé imposer une sentence de mort pour crime de haute tradition. Et puis un spectateur, tout à fait impartial, mais vous savez que les Anglais sont souvent très courageux, hein? Le spectateur impartial, qui était considéré comme un Anglican, a déclaré « Un jury de Turcs aurait acquitté ces hommes ». Ça prend du courage, hein? Il faut s'opposer ainsi à une justice qui est parfois très sévère. Et sur l'échafaud, bien, ces 5 jésuites anglais ont eu la permission, et ça aussi c'est très anglais, la permission de prier un instant et d'adresser quelques mots au peuple. Vous allez croire que j'aime beaucoup les Anglais. C'est pas ça, c'est que je suis déjà allé plusieurs fois en Angleterre et j'avoue que, mais peut-être plus autrefois que maintenant, mais je me souviens la première fois en 1949, je trouvais donc que les Anglais étaient raffinés, civilisés. Je demandais un renseignement, j'étais tout jeune, j'avais 24 ans, je demandais un renseignement à un Anglais qui sans doute était pressé, il avait sa valise diplomatique, il avait son chapeau noir, rond, là, vous savez qu'on les portait dans ce temps-là, et puis il était très bien mis, et je leur demandais, dans mon mauvais anglais, un renseignement pour me rendre quelque part. Bien, il m'accompagnait 4-5 coins de rue, puis avec une gentillesse m'indiquait exactement où c'était. Je me disais, quelle gentillesse, hein? C'était extraordinaire. Donc, pour revenir à nos bons pères, ils se sont adressés au peuple. Ils avaient déjà la corde au cou lorsqu'on leur a offert la vie sauve. S'ils révélaient, évidemment, les secrets de la fameuse conspiration pour tuer le roi. Alors, ils ont remercié courtoisement le roi. Voyez bien, c'était anglais. Ils remercient courtoisement le roi pour sa clémence, imaginez. Mais que pouvait-il révéler? Rien, puisqu'il n'y avait pas de complot. Et le bourreau, comme un bon anglais, a attendu pour dépecer leur corps, qu'il ne donne plus signe de vie. Et les restes sanglants ont été remis à quelques amis des martyrs. Tedium Laudamus. Oui, c'est écrit en latin. De Sir Charles Villiers Stanford, qui est mort en 1924. C'est un très beau chant anglican que l'on fait retentir comme ça dans la chapelle Saint-Georges, Saint George's Chapel, à Windsor, château de Windsor. Et voilà que nous allons passer à un autre martyr. Oh, vous allez dire que j'en veux aux Anglicans, mais pas du tout, pas du tout. Il faut se situer dans le temps et l'espace. Hein. Et n'ayons aucune acrimonie à l'égard des Anglicans. Ne pensons pas comme ça. Ce sont nos frères très près, les Anglicans. Vous savez qu'il y a des Anglicans de la High Church qui sont parfois plus catholiques que nous. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais sur la 42e à New York, à l'église Saint Mary the Virgin, où il y a bien longtemps de ça. Je pense que c'était vers 1960 environ. Et je suis allé à la messe chez les Anglicans de Saint Mary the Virgin. En arrivant, c'est une religieuse en costume magnifique. Il y en avait d'ailleurs à Montréal à l'époque de ces mêmes religieuses qui avaient un costume extraordinaire. Le voile était très long. Le costume allait jusqu'à terre. Et qui m'a offert de l'eau bénite si je voulais en apporter chez moi. Je lui dis que je n'habitais pas à New York et que je ne pouvais pas me charger d'eau bénite. Et je me suis mis à regarder les livres que l'on vendait à l'entrée sur un présentoir. Eh bien, croyez-moi ou ne me croyez pas, je vous assure, c'est authentique, il n'y avait que deux livres anglicans. Tous les autres étaient catholiques et ça comprenait des encycliques du pape. Et oui, c'est phénoménal. Hein? Vous direz, mais pourquoi ne sont-ils pas catholiques? C'est parce qu'ils sont anglicans. Ils rejettent certaines choses. Il faut discuter avec eux, puis il faut lire les ouvrages. Hein. Ce sont des gens que l'on appelle, ils se disent eux-mêmes catholiques, pas romains, mais Anglican Catholics. Et ils m'ont remis à l'entrée un feuillet sur lequel j'ai pu voir quels étaient les chants que l'on chantait durant la messe. Et dans l'église, il y avait des confessionnaux, il y avait un chemin de croix. Les prêtres étaient en soutane, y compris les prêtres à l'entrée. Tous portaient la soutane. Ils sont entrés diacres sous diacres, comme on célébrait la messe à l'époque, en 1960, avant le concile. Et c'était en grégorien, mais en anglais. J'ai acheté d'ailleurs, chez un marchand de disques à New York, ce disque de chant grégorien anglais. Je les ai chez moi toujours, j'aime beaucoup les écouter. C'est très très beau, c'est magnifique et on comprend les paroles. Enfin, moi je comprends le latin, mais c'est parce que j'ai eu la chance de l'étudier, puis de le chanter souvent, mais c'est pas facile de comprendre ça. Et là, quand c'est en anglais, c'est merveilleux. Si c'était en français dans nos églises, peut-être que notre langue ne permet pas qu'on mette des neumes, c'est-à-dire des chants grégoriens à cause de l'accent tonique. Hein. Bon, c'est très compliqué. Mais alors, donc, ces bons anglicans de High Church m'ont remis ce feuillet. Sur le feuillet, je voyais qu'on célébrait durant la messe, durant la semaine, la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, carmélite morte en 1897. On la célébrait. Et ces mêmes catholiques anglicains à Londres, qui ont quatre paroisses importantes, sont déjà allés, je vous l'avais dit, à Rome pour demander que le pape canonise John Henry Newman, éminent théologien anglican, qui s'est converti à la foi catholique de Rome et qui a été nommé cardinal. Il était oratorien, c'était un prêtre de l'oratoire, comme on dit, fondé par Saint-Philippe Néri, dont je vous ai déjà parlé. C'est pour vous dire que ces hommes-là, ces femmes-là, de l'église anglicane High Church, sont très près de nous. Alors, je vous parle donc maintenant du bienheureux Thomas Woodhouse. Lui, il est mort un siècle avant l'autre, avant les cinq autres, en 1573. C'est en pleine persécution de la reine Élisabeth. Première, Thomas Woodhouse a été ordonné prêtre sous la reine Marie Tudor, qui, elle, était catholique. C'était la fille aînée de Henri VIII. Elle n'a pas voulu suivre son père dans la foi anglicane et dans la séparation de l'Église d'Angleterre de l'Église de Rome. Mais elle a eu la tête tranchée, vous savez, par sa sœur, la reine Élisabeth. Et on lui a donné à Thomas Woodhouse une petite paroisse dans le comté de Lincoln, puis la princesse Élisabeth, qui est devenue la reine Élisabeth, qui a succédé donc à Marie, mais la persécution a recommencé. Et en 1561, vous savez, l'Église d'Angleterre se sépare de Rome en 1532 à peu près, ou 31 si vous préférez. Et en 1561, eh bien, notre prêtre, l'abbé Thomas Woodhouse, a été pris en flagrant délit de dire la messe. Et il était condamné à la prison pour 12 ans à cause de ça. Les premières années, il a eu la permission de célébrer le Saint-Sacrifice de la messe dans sa cellule. Alors, il essayait de convertir les détenus, puis il lançait aussi, à travers les grilles, il lançait des bonnes paroles. La bonne parole. Il lançait ça par la fenêtre. Même qu'il l'écrivait sur des petits bouts de papier attachés à des pierres. Puis il lançait ça au loin. Il n'y allait pas de main morte. Puis lors de la peste en 1563, 2 ans après son emprisonnement, les prisonniers pour religion ont été expédiés à la campagne. Alors là, Thomas Woodhouse s'est mis à régler un peu l'usage catholique. Alors, il leur a dit, puisque vous êtes catholiques, pas de viande à la campagne, n'est-ce pas? Il faut pas manger de viande en carême, puisque la viande était tout près. Quand on est à la campagne, c'est facile d'en obtenir. Et puis, il a refusé de se découvrir pendant les grâces si c'était un protestant qui disait ses prières. Il n'était pas très, très écuménique, hein? On voit que les choses ont beaucoup changé. Et il était une sorte de chrétien livré aux bêtes comme au IIIe siècle. Hein. Puis il agaçait les lions, au fond, les protestants. Il était terrible. Il aurait essayé même de subordonner son geôlier pour être supplicié à la place de Jean Story, dont il a été question il y a plusieurs semaines. En somme, il a voulu faire comme le père Maximilien Kolbe, le franciscain qui a été canonisé par Jean-Paul II, qui, durant la dernière guerre, a préféré mourir à la place de quelqu'un d'autre. Et cet homme, qui a été sauvé, a assisté à la canonisation à Rome de Maximilien Kolbe. En 1572, donc 11 ans après son emprisonnement, il a obtenu par correspondance son admission dans la Compagnie de Jésus. Son zèle s'est déchaîné. Il a écrit à Lord Burleigh une lettre qui exposait que la reine Élisabeth devait faire sa soumission au pape Pie V, qui l'avait déposée selon ses droits. Mais ses explications orales ont achevé d'indisposer les juges. Puis là, en avril 1573, il leur refusa le droit à eux, qui étaient séculiers, de juger un prêtre. Ils le trouvèrent coupable de haute tradition. Et quand Thomas Woodhouse a été sur l'échafaud, on lui a dit de demander pardon à Dieu, à la reine et au pays. Puis il a répliqué, non. De par Dieu, je demande à vous et à la reine d'implorer pardon de Dieu et de notre Sainte Mère l'Église, parce que vous êtes allés contre la vérité. Vous avez résisté à notre Seigneur Jésus-Christ et au pape, son vicaire ici-bas. Alors, c'était un têtu. Il faut comprendre que c'était des persécutions. Il y avait là, au fond de son cœur, une opposition très forte à cette séparation. Alors, il a été pendu, dépecé à terre et étripé encore vif. extrait du final de la première symphonie pour orgue de Louis Vierne, un Français cette fois-ci. Décédé en 1937, c'était interprété par John Porter, organiste à la chapelle Saint-Georges de Windsor, toujours sur le même disque. Je tiens à faire une remarque sur ce qu'on vient d'entendre. On peut se scandaliser de la violence que l'on a mise à exécuter ce dernier saint. Il ne faut pas accuser les Anglicans, c'était souvent des questions politiques. On craignait que les catholiques anglais n'établissent des liens avec le pouvoir politique d'Espagne en particulier, car on craignait un envahissement de l'Espagne. Souvenez-vous de l'Armada. Il y avait des raisons religieuses et politiques, tout était très intimement mêlé. Mais ceux qui se scandalisent de ça et qui croient que la non-foi réglerait le problème, je leur demanderais, et je leur supplie de m'écouter, là, dans ce siècle-ci que nous venons de vivre, les régimes athées, communistes, ou les régimes complètement capitalistes et sans cœur d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, ont tué plus de monde que quiconque. Regardez ce que les nazis ont fait. Regardez ce que Staline a fait. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de gens sacrifiés, tués, torturés psychologiquement, torturés dans des camps de concentration abominables, qui suffisent de lire Solzhenitsyn. C'est pas l'athéisme qui va régler le problème. C'est l'approfondissement de la foi chrétienne. Et actuellement, l'approfondissement de la foi chrétienne permet, dans la plupart des pays, de se retrouver fraternel. J'ajoute un petit mot. En Irlande, quand on dit les catholiques et les protestants, moi personnellement, ça m'irrite. Qu'on dise donc les Irlandais qui croient à l'union de toute l'Angleterre sur le plan politique et les autres dans le Nord qui viennent d'Écosse et qui sont protestants et qui souhaitent leur attachement à la couronne d'Angleterre. Devrait-on dire ici, si par hasard l'indépendance du Québec se faisait, que les catholiques se sont séparés des protestants? Ça n'a rien à voir, pas plus dans le nord de l'Irlande que dans bien d'autres pays où on croit que ce sont des questions religieuses. Ce sont des questions de patriotisme, d'unité des peuples, de fonctionnement du gouvernement politique pour le bien du peuple. Et des gens peuvent poser des gestes violents, et nous les regrettons, et moi personnellement je suis contre toute forme de violence, et je regrette que des prétendus catholiques dans l'Irlande du Nord posent de tels gestes, mais je trouve qu'on ne devrait jamais dire les catholiques et les protestants. On devrait trouver d'autres termes, les républicains et les royalistes au besoin. Vous savez que en 1994, il y a eu de nombreux missionnaires assassinés. Simplement, au mois de novembre 1994, on calculait 17 missionnaires assassinés, hommes et femmes, 11 prêtres, 2 frères, 4 religieuses. 7 avaient été massacrés au Rwanda, 4 en Algérie, 3 en Inde, 1 en Ouganda, 1 en Sierra Leone et 1 en Haïti. Parmi eux, il y avait eu 6 jésuites, 2 pères blancs, 1 prêtre Fidei Donum, 1 spiritain, 1 montfortin, 1 religieux de Sainte-Croix, dont j'ai longuement parlé au début de cette série, un Québécois, et 1 frère mariste, 2 religieuses missionnaires augustines, 1 dominicaine de Sainte-Catherine de Sienne, 1 religieuse de l'Institut de l'Assomption. Et puis si on regarde ça par leur pays d'origine, ben il y avait 3 Rwandais, 3 Français, 3 Espagnols, 3 Indiens, 1 Belge, 1 Argentin, 1 Haïtien, 1 Irlandais et 1 Canadien, un Québécois. Alors, pour la liste des jésuites assassinés, bien, il y en a 2 du Rwanda, ou même 3 du Rwanda, pardon, qui ont des noms un peu compliqués. Le père Mahamé, le père Kazigi, et le père Utagambwa. De l'Inde, c'est le père Coujour, Lawrence Coujour. Je vous signale que l'adjoint responsable du général des Jésuites est un Indien, que les Indiens sont de plus en plus nombreux chez les Jésuites. Il y a énormément de grandes et de très belles vocations qui viennent de l'Inde chez les Jésuites. C'est pour ça que je tiens à le signaler. Il y a un autre Indien, le père Dungdung, curieux nom, et le frère Arup Ingwar, toujours de l'Inde, qui sont morts le 1er septembre 1994. Les victimes au sein de l'Église, pour ce qui est de l'Église du Rwanda, c'est absolument terrible. Il y a eu 96 prêtres diocésains qui sont morts, 6 religieux prêtres, 64 religieuses, 45 frères, 28 laïcs de vie consacrée. Voilà les gens qui sont morts au Rwanda dans ce carnage politique insensé, invraisemblable, qui dépasse tout entendement et qu'on n'arrive pas à comprendre.